Bonjour, maintenant vous savez tout, ou presque, hein, du feu de Saint-Antoine ou ergotisme, et de la commanderie d'Issenheim où affluaient les pèlerins cherchant la protection de Saint-Antoine et les malades qui espéraient le soin des religieux et des chirurgiens. Ce sont des sources écrites qui nous ont permis un tel voyage dans le temps. En revanche, pour le retable, rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons par exemple pas le contrat signé entre le commanditaire et les artistes. Il faut donc arriver à faire parler, entre guillemets, l'œuvre. Il faut l'étudier et chercher ce qui a pu être écrit sur elle. Par exemple, le commanditaire. Qui était-il? Là, nous avons de la chance. Il s'est fait représenter, sculpté, agenouillé, priant Saint-Antoine dans la caisse des sculptures du retable. Il a même pensé à faire peindre ses armoiries sur le panneau qui est juste à côté. Grâce à elle, nous savons qu'il s'agit de Guy Gers, supérieur de la commanderie d'Issenheim, de 1490 à 1516. Et alors maintenant, les créateurs du retable, qui sont-ils? Nous avons un premier indice qui est parvenu jusqu'à nous grâce à l'ouvrage rédigé par l'historien de l'art Joachim von Sandrart en 1675 sur les artistes allemands. Il nous apprend que l'auteur d'un retable situé à Issenheim se nomme Grunewald, que cet artiste est contemporain de Dürer, mais que nous savons très peu de choses sur lui. Heureusement, depuis, la recherche a fait des progrès. Le peintre qui a réalisé le retable avec son atelier s'appelle Matthias Gotthard Nittart. On sait qu'il est né à Würzburg vers 1475-1480 et qu'il meurt à Halle en 1528. Il est peintre et hydraulicien et il travaille dans la région du Main. Alors si vous avez envie, vous pouvez aller voir ses peintures dans les musées de Bâle, de Freiburg en Brisgau, de Karlsruhe, de Francfort, de Munich et même un peu plus loin à Washington. Il y a aussi une de ses peintures dans l'église de Stuttgart et nous connaissons une trentaine de dessins qui sont disséminés dans les grands cabinets d'art graphique du monde. Voilà pour le peintre. Le sculpteur, lui, s'appelle Nicolas de Haguenau et il est mentionné pour la première fois à Strasbourg en 1485 où il a son atelier. Et nous savons aussi qu'avec ses deux frères, il réalise le grand retable du maître-autel de la cathédrale de Strasbourg et de nombreux autres retables dans cette même ville, malheureusement tous détruits. C'est par comparaison stylistique avec les rares sculptures épargnées de la destruction du retable du maître-autel de Strasbourg que les sculptures du retable d'Issenheim ont pu être attribuées à cet artiste, Nicolas de Haguenau et à son atelier, mais seulement au début du XXe siècle. Il a fallu longtemps pour que les recherches aboutissent. Donc, sans le contrat de commande, nous ne savons même pas si le commanditaire a été très précis dans son cahier des charges. Nous ne savons pas non plus où le retable a été réalisé. Dans l'église d'Issenheim, comme ça a pu être dit? Non. Il faut vraiment des professionnels, du matériel, des outils et de la place. Nous savons à cette époque que les retables, en fait, sont réalisés dans les ateliers des artistes. Et ils voyagent ensuite en caisse, par voie terrestre, fluviale ou maritime, pour arriver jusqu'au lieu de commande où ils sont remontés. Une hypothèse met en avant, par exemple, la réalisation du retable à Strasbourg, dans l'atelier du sculpteur Nicolas de Haguenau, mais il n'y a aucune certitude. Les sculptures et les panneaux peints sont faits dans du bois de tilleul. Les grumes sont taillées pour les sculptures et les planches de tilleul assemblées pour les volets peints. Les peintres ensuite posent la polychromie sur les sculptures et mettent en œuvre la couche picturale sous la direction du peintre. Donc, le retable a certainement été réalisé entre 1512 et 1516, période où les deux artistes n'ont pas d'autres commandes. Et il orne le maître-autel d'Issenheim dès le début du XVIe siècle, d'où il ne bouge plus jusqu'en 1632. Effectivement, à ce moment-là, l'Alsace subit un épisode de guerre assez violent lié à la guerre de 30 ans. Le retable et les religieux trouvent refuge à Thann, qui est une ville fortifiée d'Alsace, et il y reste jusqu'en 1658, date à laquelle on sait qu'il revient à Issenheim. Il y a ensuite un autre épisode, pendant la guerre de succession d'Espagne, en 1708-1709, il est transféré à Besançon pour échapper aux troupes armées qui ravagent l'Alsace à ce moment-là. L'autre grand épisode de l'histoire du retable, sur les vicissitudes du retable, c'est en 1793. Nous sommes en pleine tourmente révolutionnaire et pour le protéger du vandalisme, les sculptures et les panneaux peints sont transportés à Colmar. et la caisse qui abritait des sculptures, les éléments décoratifs qui la surplombaient, sont eux malheureusement détruits en 1794. À Colmar, donc, le retable est démembré et il est conservé dans l'ancien couvent des Jésuites, puis à partir de 1852, dans le musée Unterlinden, qui ouvre ses portes en 1853. Voilà, il est au musée, il est protégé. Donc on peut se dire, ça y est, c'en est fini de ses pérégrinations. Eh bien non. En 1914, lorsque la guerre éclate, le retable se retrouve dans la salle blindée de la caisse d'épargne de Colmar. Et puis en 1917, comme l'Alsace est allemande, il est transféré à Munich pour être restauré. Il y reste jusqu'en 1919. La Seconde Guerre mondiale se profile. Et en août 1939, le retable est évacué au château de Lafarge, près de Limoges, puis au château de Hautefort, dans le Périgord. En 1940, le gouvernement allemand fait revenir l'œuvre au musée de Colmar, puis le met dans les caves du château du Haut-Königsbourg, qui est juste à côté, afin de le protéger des bombardements alliés. En juillet 1945, le retable retrouve enfin le musée. Voilà, maintenant vous connaissez toute l'histoire de cette œuvre. Vous êtes prêt à me suivre dans la présentation de ces panneaux peints, de ces sculptures. Vous aurez juste besoin d'imagination et de couleurs dans les yeux. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Et portez-vous bien surtout.